Vous écoutez toujours Delirium Environnemental, le magazine d'information en environnement. Je vous rappelle que Delirium Environnemental, c'est également un site internet et une cyberlette que vous pouvez trouver au www.radiodelirium.net. Donc, on poursuit la revue de l'actualité, revue de presse cette semaine. Un grand problème environnemental, celui des vieux paquebots rouillés, usés. En fait, tout ce qui est matériel duquel on veut se débarrasser est habituellement problématique. On sait qu'un des grands problèmes de la planète, c'est notre dépendance à la consommation à tout prix. Dans le domaine de l'industrie navale, c'est un peu la même chose. Et présentement, il y a un bateau qui est sous haute surveillance. Et imaginez-vous donc, c'est un bateau de la famille Martin. Hugo Lachapelle, qu'en est-il?
Eh oui, un bateau de la Canadian Steamship Line, la compagnie de Paul Martin qui a été léguée à son beau-frère et sa sœur ou je sais pas qui durant son mandat.
Ses fils,
hein, voilà. Alors aucune attache ici.
Non, il paraît qu'ils s'en mêlent plus du tout, ils en parlent pas du tout dans leur partie de Noël, rien.
Non, aucun pas du tout, jamais. En fait, le Fairbeck, alors c'est un grand navire de marchandises qui a été utilisé, bon, qui a été en service, mon Dieu, je sais même pas depuis quand, là, mais ça doit faire assez longtemps. Là, un paquebot de ce genre-là, ça doit avoir une durée de vie d'à peu près 50 ans. Mais un jour, il faut le mettre au rancard. Et imaginez-vous donc qu'il y a personne au Canada ou aux États-Unis qui a bien envie de s'occuper de démonter ça, ramasser toute la rouille, la scrap, les BPC, l'amiante et tout ce qu'il y a dans ces bateaux-là, qui se détache en morceaux et qu'on doit après ça dont on doit disposer.
Alors qui s'en charge?
Qui s'en charge? Eh bien, on l'envoie dans des pays du sud, dans des pays en voie de développement. Pour les aider à se développer, j'imagine.
Particulièrement, en fait, des pays émergents comme l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan.
Ben, dans ce cas-ci, c'est effectivement en Inde que ça va se passer. Si vous avez déjà été mis au courant, il y a une certaine convention de Bâle, une convention sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et de leur élimination, qui est en vigueur depuis 1992, qui nous aide à mettre ces choses au clair là pour éviter l'abus des pays développés à domper, c'est ça, tous leurs produits toxiques ou leurs trucs usagés, machin chouette.
Parce qu'on s'entend que quand les pas les paysans, mais quand les gens, en fait, ceux qui sont d'Inde, j'imagine, donc des Indiens d'Inde, défont ces bateaux-là. Ça se fait pas dans des cales sèches où est-ce qu'on récupère tous les produits chimiques comme l'amiante, etc. Donc, ils démontent ça à même les plages et donc les produits toxiques et chimiques ruissellent jusque dans les mers. Où est-ce qu'ils pêchent le poisson qu'ils mangent?
Eh bien, exactement. Et puis, en fait, c'est ça, c'est...
que tu déplies.
Donc, bref, le point, c'est que nos travailleurs sont exposés et l'environnement dans ces pays-là est exposé fortement et la décommission d'un bateau de ce genre-là peut créer beaucoup de pollution.
Donc ce bateau-là est sous surveillance parce que présentement, c'est incertain. On ne sait pas où est-ce qu'il est.
Ce qui s'est passé, c'est que cette semaine, on s'est aperçu que le bateau était parti de Montréal le 24 janvier et alors qu'il y avait le nom Fairbeck, qui était nommé Fairbeck, qui avait un pavillon canadien dans ce temps-là et un pavillon aussi de la Canadian Steamship Line. Tout ça a disparu, les papiers sont un peu éparpillés, on ne sait pas trop. Mais le bateau qui est parti s'appelait finalement Mikalakis et avait un pavillon mongol. La Mongolie, un pays qui n'a pas de contact avec l'océan, juste pour vous dire...
Et donc, bon, où est-ce que la réglementation est beaucoup moins sévère, j'imagine, en Mongolie?
Ben, entre autres, peut-être qu'ils n'ont même pas de réglementation à ce niveau-là. Mais bref, le bateau est parti comme ça. Et on n'a pas, pour éviter cette convention de Bâle qui défend le transfert, le dompage de produits toxiques dans d'autres pays, on a considéré le bateau comme un produit toxique parce qu'il en est bourré. Eh bien, on a décidé de le changer de vie un peu.
Comme c'est très fréquent dans l'industrie navale.
Exactement.
Mais donc.
Alors, ce que Greenpeace nous dit, c'est que le Canada n'a pas respecté ses obligations internationales et Greenpeace et le Basel Action Network, donc le groupe qui s'est formé suite à la convention de Bâle, est en train de envoyer en fait le 10 mars une lettre à Paul Martin pour lui dire que ça c'était inadmissible, inacceptable, qu'on veut avoir des nouvelles, qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe avec ce bateau-là et que son décommissionnement doit être fait selon les règles de l'art, selon la convention de Bâle et avec tous les coûts supplémentaires que ça peut impliquer.
Soyez des citoyens corporatifs responsables, s'il vous plaît, Monsieur Martin. En plus, parlez à vos fils.
C'est quand même assez incroyable. Je dis pas s'il y avait aucun lien avec le pouvoir actuel, puis que je veux dire, c'était une espèce de compagnie de bas niveau, mais là.
Mais
quand
là,
même.
Quand même, vous avez quand même une réputation à préserver, Monsieur Martin. Quoique Madame Chantal Hébert a parlé pour vous en bien, tout le monde en parle, écouté par 2 millions de personnes au moins en disant c'est un bon bonhomme. Ben monsieur, si vous êtes un bon bonhomme, ramassez vos cochonneries comme il faut.
C'est ça, ramassons nos cochonneries et puis assumons nos cochonneries.
Assumons.
On utilise ces bateaux-là.
Assumons nos cochonneries. Non, non, mais je note. Je pense que je vais en faire un sticker pour
Assumons
nos cochonneries. Mais merci beaucoup, Hugo Lachapelle. Les gens qui voudront s'informer pourront le faire à partir du site internet de Greenpeace, qui est, entre autres, responsable de cette campagne-là de surveillance des bateaux comme déchets toxiques.
La Basel Action Network, juste pour finir ce point-là, fait un excellent travail. Vous pouvez aller voir leur site internet. On va le mettre sur le nôtre au www.radioderiam.net. Font des très bonnes études et quand même assez poussées en la matière, justement, sur tout l'échange des déchets dangereux.
On pourra en monter un dossier de fond, Nicolas. On parlait de dossier de fond avant l'émission. On pourra en monter un dossier parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Puis justement, on est souvent loin de tout ça. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc, d'autant plus important de se tenir informé de cette façon-là parce que, vous savez, citoyens et citoyennes, vous avez un pouvoir. Oui, ne l'oubliez jamais. De retour à Délirium environnemental, toujours dans la section revue de presse, revue de l'actualité. On est rendu dans le bloc où est-ce qu'on vous parle des très populaires ces temps-ci. Changement climatique, tic, 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 tic. Entre autres phénomènes troublants qu'on observe reliés au changement climatique, il y a la disparition de lieux, ma foi, symboliques, comme la chaîne de montagnes qui s'appelle l'Himalaya. Semble-t-il que l'Himalaya fond et que ça va avoir des conséquences désastreuses, pas seulement pour les écosystèmes, mais bien entendu pour les êtres humains.
Ben oui, c'est pas la première fois qu'on en parle. On accumule toujours les nouvelles sur justement les fontes de glaciers. Les Himalayas étaient même v'là un an déjà sur la sellette, puisqu'on avait déjà découvert des chiffres assez alarmants sur la rapidité de la fonte des glaciers himalayens. Mais il y a un rapport du Fonds mondial pour la nature, le WWF, qui nous lance encore une fois un cri d'alarme, notamment sur la question de la qualité de l'eau et de la quantité d'eau disponible pour plusieurs millions de personnes justement qui dépendent de ces glaciers-là. Vous savez que les glaciers himalayens offrent de l'eau potable à c'est 8 pays qui sont directement reliés, puis on, plusieurs rivières qui dépendent de cette eau des glaciers himalayens, dont le Gange, l'Indu, le Brahmapoutra, le Mékong, le Yangtze et le fleuve jaune, donc des immenses fleuves qui fournissent, en plus de l'eau potable, de l'eau pour l'irrigation et l'agriculture. Et puis, ce que le Fonds mondial nous dit, il dit, écoutez, ce qui va se passer dans les prochaines années, dû à la fonte déjà accélérée, parce qu'on observe entre 10 et 15 mètres de retrait à chaque année de ces glaciers-là dans l'Himalaya, ce qu'on nous dit, c'est que on va probablement observer des inondations pendant les prochaines années pour finalement arriver dans des sécheresses drastiques, où est-ce que les gens vont de moins en moins avoir accès à l'eau, ce qui évidemment implique des pertes de vies humaines.
Et met en jeu la sécurité alimentaire si ces communautés-là sont basées sur une autonomie agricole, c'est-à-dire si eux-mêmes cultivent leur récolte.
Exactement. Donc évidemment, ces rapports-là font toujours le même effet, c'est-à-dire, écoutez, on est dans des scénarios catastrophes qui sont de plus en plus présentés sur la scène publique. C'est des genres de choses qu'on disait il y a 10 ans, mais qui n'étaient pas écoutées. Maintenant, on les a en pleine poire. Faut négocier avec ça. Et la façon de négocier, c'est bien malheureux, mais il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est quelque chose qui est de plus en plus reconnu, malgré que les États-Unis ne sont pas rentrés. Maintenant que Kyoto est en vigueur, le Fonds mondial fait appel aux pays de la planète, surtout les pays industrialisés, pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Si ce dossier-là vous intéresse, et surtout sur tout ce qui est changement climatique extrême, je vous invite à aller voir le site de la BBC qui nous fait une espèce de topo sur les images avant-après changement climatique. Et ça frappe Sérieusement, ça frappe, ça parle beaucoup. On nous montre des images justement de glaciers il y a 100 ans et les images de glaciers aujourd'hui avec des retraits considérables, des lacs qui ont disparu, des champs qui sont asséchés, des forêts qui sont plus là et puis bon, ainsi de suite. Donc, allez voir ça.
Une fois que vous serez convaincu que c'est dramatique et que ça se passe présentement, moi, je vous inviterais à relever le défi d'une tonne parce que pourquoi pas, c'est sûr qu'on demande, on responsabilise beaucoup les citoyens en leur donnant plein de trucs et de conseils pour réduire leur émission de gaz à effet de serre jusqu'en moyenne d'une tonne par année, jusqu'à une tonne par année, parce qu'en moyenne, au Canada, on produit 5 tonnes de gaz à effet de serre, chaque citoyen et citoyenne. Une fois que vous aurez commencé à agir vous-même à votre échelle pour les changements climatiques, c'est-à-dire à faire votre part pour les changements climatiques, ben, je vous recommande de commencer à chaler les pouvoirs publics et l'industrie pour qu'ils fassent de même, parce que même si les citoyens et citoyennes se mobilisent, tant que l'industrie et les pouvoirs publics vont dormir au gaz, ben, on va continuer de vivre des choses comme il se passe présentement dans les Himalayas. C'était mon point.
Tout à fait. Donc, si vous n'êtes pas convaincu, allez voir sur notre site Internet, vous allez voir ces belles images.
Exactement. Il y a plusieurs autres exemples. On parlait de la chaîne de montagnes, les Himalayas, mais il y a plusieurs autres exemples, Hugo.
Ben en fait, oui, vous savez, le GIEC,
le groupe intergouvernemental d'experts en l'évolution du climat.
Eh oui. Alors voilà, nous sort un rapport chaque année sur l'évolution du climat et sur les résultats des recherches en cours. Et un des résultats très probants, c'est qu'on nous dit que les événements climatiques extrêmes vont augmenter. Par événements climatiques extrêmes, on entend bon les changements de température, les décalements de saison,
les tsunamis.
Non.
Les inondations, les sécheresses, les tornades, ouragans, tempêtes, némites, alouettes,
verglas,
tout ce que tu voudras.
Et il y a un site en particulier, le Planet Ark, d'où on tire plusieurs de nos nouvelles, qui relate souvent de différents événements climatiques extrêmes. On vous les mentionne que très rarement. Et puis là, je veux dire, cette semaine, il y en avait juste 4-5, un à côté de l'autre. J'ai décidé d'en profiter. Alors, on est en train d'observer en ce moment à Cuba la plus grande sécheresse des 100 dernières années. Il y a plus d'eau. Il y a un habitant sur six de Cuba qui est privé d'eau en ce moment et on s'attend à ce que ça augmente durant les prochains mois. En Thaïlande, même chose, grande sécheresse qui met en péril les cultures de riz de l'année. En
qui fait, est la base de l'alimentation locale.
Et en fait, on dit qu'on ne sera pas capable de faire une deuxième culture cette année. Alors, on fait plusieurs récoltes par année. En plus, les barrages hydroélectriques sont à sec. Pénurie d'énergie aussi dans certains secteurs. Même chose du côté du Zimbabwe, encore une sécheresse en ce moment qui amène une pénurie alimentaire qui est, bon, tout ça s'est exacerbé, bien entendu, par les conditions sociales en jeu, mais là, au Zimbabwe, c'est une sécheresse de 4-5 ans. Ça fait 4-5 ans que la sécheresse dure et là, ça s'en vient vraiment pénible. En Chine, en ce moment, là, c'est la pluie et la neige qui sont en train de faire plusieurs morts dans le secteur du sud-ouest de la Chine.
Donc, partout, les changements climatiques affectent la vie humaine.
Mais oui, puis juste pour rajouter là-dessus, il y a une nouvelle étude qui est sortie qui nous montre que le déboisement en ce moment en Amazonie provoquerait des diminutions drastiques des précipitations. Juste des phénomènes comme ça que, voilà même pas 20 ans, on était incapable de mesurer. Puis on commence à voir justement comment que l'effet de l'activité humaine un peu partout sur la planète provoque des changements drastiques sur le climat en général. Donc imaginez comment les répercussions des changements climatiques vont s'impliquer dans tous les petits raccoins de la planète. C'est quand même assez paniquant quand on s'y attarde.
We are the world.
Alors, et en fait, souvent les gens sont un peu timides à dire événements climatiques extrêmes tels que le verglas, changement climatique. C'est vrai que l'association est pas si claire que ça, mais c'est quand on regarde à l'échelle planétaire, quand on regarde sur les données maximales et minimales dans différents pays, dans différents secteurs, là on s'aperçoit que ces événements-là ont une occurrence beaucoup plus fréquente. Et c'est là qu'on se dit, oui, il y a un effet des changements climatiques sur les événements climatiques extrêmes.
Merci beaucoup pour ce petit bloc changement climatique, tic, tic, tic. J'en profite pour vous rappeler qu'en dernière partie d'émission, on a le plaisir de recevoir M. Benoît Lambert qui vient nous parler de l'état de la planète, ce nouveau livre, en fait, qui est la traduction française de World Watch Institute, The State of the World, qui a pour titre redéfinir la sécurité mondiale, parce que justement, on se concentre beaucoup sur la sécurité en termes militaires, terrorisme, etc. Et on s'inquiète pas assez des impacts de, par exemple, de la mauvaise gestion des ressources naturelles. Quand on pense au conflit au Darfour, 2 millions, je pense, de déplacés, 180 000 morts depuis le début de ce conflit-là. Des choses atroces qui se passent là-bas, mais pour beaucoup, c'est à cause de la mauvaise gestion, mais en fait, de l'épuisement des ressources, l'épuisement des sols, etc. Donc, ça a des conséquences humaines dramatiques, qu'on se le dise, qu'on se le répète, parce que vraiment, c'est intolérable. Grièvement environnemental, toujours en studio avec moi, Hugo Lachapelle, Nicolas Mainville et moi, Sofiane Legendre, bien entendu. On continue juste une petite chire sur les changements climatiques. En Europe, ils sont vraiment plus progressistes que nous et ils se donnent les moyens qu'il faut pour agir.
Bien, en fait, il y a déjà des grosses pressions pour les négociations de ce qui va se passer après Kyoto. Vous savez que Kyoto arrête en 2012 officiellement et on se questionne grandement sur ce qui va se passer après 2012, bien que, bon, les conférences de Rio qui se sont passées, en fait, de Buenos Aires, pardon, qui se sont passées en décembre, n'aient pas porté à des conclusions, mais c'est les ministres de l'Environnement de l'Union européenne qui prennent déjà position et qui proposent des réductions drastiques pour les années à venir. Donc, on parle de 15 à 30 d'ici 2020, de 60 à 80 d'ici 2050 pour les réductions face au niveau de 1990. Donc, vous voyez qu'en 2050, on devrait avoir réduit de 80% selon les chiffres proposés par les ministères de l'Environnement de l'Union européenne, ce qui est tout à fait encourageant. Par contre, l'Union européenne comme telle et la Commission européenne réagit un petit peu timidement à ça, et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec ces chiffres-là, mais pour l'instant, c'est lancé. C'est les premiers pays à avoir pris position là-dessus. Donc, on salue le mouvement.
On salue le mouvement. Une autre bonne raison de saluer le mouvement, quoique là, ils ont levé le moratoire. On se souvient que l'Europe a eu une position très claire sur la dissémination des OGM dans l'alimentation humaine et animale, animale à des fins d'alimentation humaine ultérieurement. Le dossier des OGM, c'est un dossier duquel, d'après moi, on n'entend pas suffisamment parler. Et c'est l'exemple, c'est un de ces exemples où est-ce que l'industrie a fait des pressions, le lobby des industries agroalimentaires, mais plus particulièrement des compagnies semencières, a fait des pressions telles sur les pouvoirs publics qu'il n'y a plus aucune éthique ou qu'il n'y a plus aucune réflexion rationnelle sur ce qu'on est en train de faire. Et puis, saviez-vous que le 15 mars, donc hier, pour ceux qui nous écoutent sur CIBL, peut-être aujourd'hui pour certains, donc le 15 mars 2005, c'est une journée, il y a des groupes de consommateurs et de la société civile qui invitent les Québécois et les Québécoises à participer à la Journée internationale des consommateurs. Saviez-vous ça, vous, qu'il y a une Journée internationale des consommateurs?
Même pas.
Et oui, paraît-il qu'il y a une Journée internationale des consommateurs. Ça se déroule le 15 mars. Et pour l'occasion, ils profitent de l'occasion, justement, pour exiger que le premier ministre Charest, qui est notre premier ministre ici au Québec, et oui, que voulez-vous, applique les recommandations unanimes de la commission parlementaire qui s'est tenue en 2004 sur la sécurité alimentaire, notamment en obligeant à l'étiquetage obligatoire des OGM à harmoniser avec les normes de l'Union européenne, parce que souvent on dit, ah, c'est trop compliqué, on n'est pas capable. Ben non, écoutez, là, prenez exemple sur nos cousins d'Europe, et c'est possible de le faire. Il suggère, entre autres, il donne plein de bonnes raisons, là, les cultures d'OGM contaminent les cultures traditionnelles, ce qui est vrai, ce qui a été prouvé. Les multinationales ont grossièrement exagéré les bénéfices des OGM, puis ont vraiment diminué les conséquences néfastes, parce que on parle pas souvent des impacts sur la santé des populations, de la consommation d'aliments transgéniques, mais c'est parce que il y a a pas vraiment d'études qui ont été faites, sauf quelques-unes qui ont montré l'hyperactivité de certains organes chez des animaux de laboratoire qui consommaient des OGM. Un autre impact aussi qui a été montré, c'est l'incapacité de certains systèmes digestifs humains, entre autres, à dégrader ces ADN-là qui sont transgéniques. Donc, vraiment un dossier à garder à l'œil. Puis, Greenpeace, l'Union responsable des l'Union des consommateurs, Greenpeace, puis les gens de la CEF de Québec, puis plusieurs autres organismes québécois, invitent les Québécois et Québécoises à contacter le premier ministre Jean Charest pour exiger l'étiquetage d'une part, mais aussi prendre quelques minutes pour appeler les compagnies, parce que les compagnies ont à cœur la satisfaction de leurs clients, et d'appeler les compagnies simplement cette semaine pour leur demander, dans vos produits préférés, est-ce qu'il y a des OGM? Parce qu'en fait, on a droit à avoir cette information-là, et c'est une arnaque sans nom de se faire dire que c'est trop compliqué puis que ça nuirait au commerce. On a encore le choix en tant que consommateur, mais encore plus en tant que citoyen. Alors, en cette journée internationale des consommateurs, soyez consommateurs et agissez un peu sur le système.
Eh oui, ben en fait, moi ce que je voulais vous dire, c'est qu'ici à Delirium, on n'est pas trop du genre à vous suggérer de faire des consommations, mais je pense que dans le cas d'une journée comme ça, je pense que moi je pourrais vous suggérer de mon propre chef de vous acheter peut-être des piles rechargeables ou une boîte à outils, réparez-le au lieu de l'acheter.
C'est vrai,
ou peut-être des patchs pour vos vêtements.
Mais c'est vrai qu'une journée justement internationale du consommateur devrait être entre autres dédiée à cette réflexion-là sur le consumérisme de nos sociétés modernes. Point important. Pour tous ceux qui voudraient s'informer, bien sûr, vous aurez tout ce que vous avez besoin de savoir sur notre site internet au www.radiodelirium.net, mais également sur le site de Greenpeace, bien entendu, qui est un des groupes qui travaille le plus sur la question des OGM, parce que malheureusement, c'est pas un dossier qui est porté par plusieurs groupes, et on sait que s'il n'y a pas de groupes environnementaux, de groupes citoyens qui portent certains dossiers, bien, il n'y a juste personne qui le fait. Alors, merci Greenpeace d'être là pour nous. Dans un autre domaine de ces compagnies qui ont été poursuivies, en fait, Hugo, on se souvient, tu nous as parlé dernièrement d'une poursuite très intéressante parce que c'est des gens d'origine vietnamienne qui poursuivaient les producteurs de l'agent orange. On se souvient que l'agent orange est aussi connu sous le nom du napalm, mais ça a été utilisé pendant la guerre du Vietnam pour officiellement défolier les forêts, donc faire tomber les feuilles pour qu'on puisse voir les opposants qui étaient, si ma mémoire est bonne, les Vietcong, les méchants de cette histoire-là, selon de quel côté on se trouvait de la barrière, bien entendu. Mais que ça a eu des conséquences sur la santé des populations et encore aujourd'hui, des enfants naissent tout à fait difformes, pas d'yeux, deux têtes, des choses complètement horribles. Donc finalement, ils se sont mis ensemble pour poursuivre, mais...
Une des grandes politique de contre-insurgence aux États-Unis, c'est-à-dire la lutte aux communistes, ça a été la politique des terres brûlées qu'on a utilisée non seulement au Vietnam, mais aussi en Amérique centrale. Eh bien, oui, comme on l'a dit, je pense qu'il y a deux semaines de tout ça, les Vietnamiens, en fait, excusez-moi, l'association de Vietnamiennes des victimes de l'agent orange avait lancé une poursuite civile,
oui,
alors en action collective, contre des compagnies qui auraient produit l'agent orange. Et donc, parmi ces compagnies-là, il y avait Monsanto et Dow Chemicals. On vous a déjà parlé de ces gentils garçons-là.
Deux des plus gros producteurs de pesticides de la planète.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le juge Jack Weinstein aux États-Unis a fait en sorte il a décidé de rejeter la demande. Donc, il n'y aura pas de poursuite en cours. Ça ne se passera pas. Eh bien... en fait, ce qu'il nous a dit, c'est que finalement, attends, là, j'étais un peu mélangé, là, mais en gros, là,
choqué.
Ouais. Le juge a fait en sorte, en nous disant qu'il ne recevrait pas cette demande-là, il a fait en sorte que ça sera maintenant plus facile pour les États-Unis de décliner toutes les responsabilités pour les conséquences de ses actions. C'est quelque chose qui a été dit par le Fonds pour la réconciliation et le développement. En fait, on a décidé que à cause que ça pouvait mettre en cause le pouvoir du chef de l'État, sa capacité de bien mener une guerre en utilisant toutes sortes de produits, toutes sortes de moyens, on pouvait remettre en cause la capacité du chef de l'État et donc on préférait ne pas s'en tirer là-dedans. Monsanto a relancé
aussi...
Ça veut
dire qu'il n'y a personne qui va pouvoir faire de poursuites sur la question de l'uranium appauvri.
Exactement. C'est la prochaine préoccupation. On se dit, ben, on n'est pas en train de créer un précédent, mais on n'est pas en train de créer un précédent, mais on n'est pas
mais en train... Mais on est en train d'en créer un.
En fait, on pourrait, tu sais, ça pourrait être refusé en ce moment et puis pas refusé plus tard, mais pour ultérieurement, mais pour le moment, je veux dire, ça regarde mal.
Ça regarde très mal. Ça regarde à l'œil parce que vraiment, moi, j'ai trouvé ça extrêmement encourageant que les gens victimes de ce type de produit-là, c'est quand même horrible ce qui s'est passé. Ça continue de durer dans le temps, puissent pas revendiquer au moins des dédommagements ou quelque chose.
4 millions de Vietnamiens affectés.
De génération en génération, ouais. C'est grave. Tu nous en reparleras un autre tantôt. Merci beaucoup, Hugo. Merci beaucoup, Nicolas. Au retour, pêle-mêle, en bref, rapide.
On a combien de temps pour les brèves?
Dernière partie de la revue de presse à Delirium Environnemental en cette belle semaine du 15 mars, journée internationale des consommateurs. C'est le temps de arrêter de consommer peut-être? Non! Donc, c'est le temps des pêle-mêle en bref cette semaine. Messieurs, qu'avez-vous remarqué dans l'actualité?
Eh bien, un nouveau litige entre le Canada et les États-Unis. On apprend que dernièrement, M. Bush a officialisé ce projet d'aller extraire du pétrole dans le Arctic National Wildlife Refuge, un des derniers sites vierge de l'Alaska, pardon, eh bien, le Canada s'oppose farouchement et M. Dion a pris position drastique contre ce projet en disant que ça va affecter les hordes de caribous là-bas. Vous savez que les caribous sont à la base de l'alimentation de plusieurs communautés autochtones dans le Grand Nord, notamment dans le Yukon.
Ils sont déjà très éprouvés par les changements climatiques.
Entre autres, alors, on s'attend à ce qu'il y ait un bisbille entre Canada et les États-Unis sur ce dossier-là. On va suivre ça pour vous, mesdames et messieurs.
Eh bien, recyclage et réutilisation. Bonne nouvelle à Montréal, deux beaux petits projets, 200 bacs de récupération vont être disposés dans les stations de métro. 65% de la masse totale des résidus gérés par les usagers du métro est constituée de papier. Donc pour le moment, on se lance au recyclage du papier. Si on a des bonnes nouvelles, si ça marche bien, on va recycler d'autres objets. Deuxième projet intéressant, Plateau Mont-Royal a décidé de distribuer des filets pour les bacs à recyclage. En fait, c'est quoi un filet? C'est une espèce de capuche de casse de bain qu'on met sur notre bac à recyclage.
Pour éviter que tout s'envole.
Exactement, pour éviter que les déchets s'envolent. On sait que c'est un grand problème qui a été fortement critiqué dans la ville de Montréal. Alors, pour le moment, il y en a quelques mille, je pense, qui ont été distribués. On pense peut-être en distribuer à l'ensemble du quartier. Et, chose intéressante, on s'est aperçu qu'à cause de cette capuche-là, les gens avaient tendance à recycler plus, c'est-à-dire qu'on pouvait en mettre plus dans le bac et on en profite, on en met plein, on bourre le bac craqué à l'os et on ferme la capuche.
Ah, on reste à Montréal, le Plateau Mont-Royal. Il y a un concours de design destiné à la signalisation du réseau des ruelles vertes du Plateau Mont-Royal. L'objectif du concours, c'est de créer une signature visuelle servant à l'identification du réseau des ruelles vertes. Pour ceux qui voudraient avoir des informations et participer, il faut savoir que c'est presque déjà bientôt fini. C'est le 25 mars, la date limite pour proposer votre signature visuelle. Donc, les artistes qui se sentent concernés par ça ou les écolos qui ont le goût de faire la promotion de cette belle idée des ruelles vertes à Montréal. Pour vous informer, vous voyez le responsable du programme Écoquartier à l'arrondissement du Plateau Mont-Royal. Donc, Écoquartier du Plateau Mont-Royal pour les renseignements.
Eh bien, ça brasse point de vue Kyoto. Vous savez que Kyoto est rentré en vigueur dernièrement et puis le Canada n'a toujours pas de plan, hein? Saviez-vous ça? Eh bien, les pressions sont de plus en plus grandes sur Dion et Effer, nos deux ministres de l'Environnement et des ressources naturelles, pardon. Eh bien, ces pressions-là ne sont pas seulement au Canada. Même en Angleterre, M. Blair lui-même est en train de négocier à la baisse ses réductions de gaz à effet de serre. Et oui, lui qui se disait défendeur de Kyoto et qui allait mettre ça à la priorité pour le G8 cette année, eh bien, est en train de négocier à la baisse. Quel manque de classe!
Ce n'était qu'un leurre. Hey, c'est déjà ce qui va compléter la revue de presse, revue de l'actualité. Les brèves, oui, je sais, comme toujours, mais toute bonne chose ayant une fin, il faut savoir s'arrêter. Et c'est maintenant qu'on le fait. Pour mieux revenir, parce qu'en dernière partie d'émission, on a le plaisir de recevoir M. Benoît Lambert, qui est rédacteur en chef du magazine L'État de la planète et éditeur du livre L'État de la planète 2005, version française.